archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Monsieur le représentant, en cette année 1960,
arrivé à la présidence du Conseil de gouvernement de la République du Sénégal, au lendemain de l'éclatement de l'éphémère Fédération du Mali, Mamadou Dia, qui a été pendant la décennie qui a précédé l'indépendance du jeune État, l'un des principaux acteurs politiques, doit désormais partager le pouvoir avec son ami, son parrain en politique, Léopold Sédar Senghor, qui occupe, lui, la fonction de président de la République. Ils doivent composer ensemble avec une constitution proclamée en août 1960, qui instaure un régime parlementaire bicéphale, qui, il faut le reconnaître, n'établit pas suffisamment clairement les rôles des deux personnages principaux de l'État. Le président du Conseil a les prérogatives pour choisir les membres de son gouvernement, qui sont des ministres chargés des secteurs d'activité de l'État. Mamadou Dia, en tant que président du Conseil, joue un rôle de premier ministre. En fait, il détient l'essentiel des pouvoirs. Il détermine et conduit, à sa guise, la politique du gouvernement. Et c'est justement sur ce point que se pose de plus en plus la question du bicéphalisme. Voici comment Mamadou Dia explique ce partage des pouvoirs.
La République du Sénégal étant proclamée, nous devions donc mettre en place les nouvelles institutions sénégalaises. Faire par conséquent la nouvelle constitution. En ce moment-là, je dis à Senghor, voici. Nous sommes maintenant entre Sénégalais. Partout se constituent des régimes présidentiels. Peut-être le moment est-il venu, n'est-ce pas, au Sénégal aussi, de faire, à l'instar des autres, un régime présidentiel. Si c'est ton avis, bon, moi, je suis d'accord pour que la Constitution soit modifiée dans ce sens. Mais il m'a dit, pas question de faire un régime présidentiel. Le Sénégal, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Et puis, tu as fait des preuves, encore une fois, il reprend, n'est-ce pas, les mêmes... il me fait la même réponse qu'après l'autonomie. Il n'est pas question. Ce que tu fais, tu as parfaitement réussi. Ce que tu fais, je ne peux pas le faire. Je serai le président de la République, c'est-à-dire une espèce de maudo, un arbitre comme suprême, mais il faut que tu restes au gouvernement. Nous ne sommes pas trop à deux.
Monsieur Roland Collin, vous qui étiez l'un des proches des deux hommes, qui étiez le directeur de cabinet du président du Conseil du gouvernement, Mamadou Dia, c'est d'ailleurs à vous qu'il a fait cet entretien. Qu'est-ce qui fait qu'au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, le Sénégal ait choisi cette formule constitutionnelle avec le président Senghor, qui ne détenait pas la réalité du pouvoir, alors qu'il était la tête de proue du mouvement, alors qu'il aurait pu imposer un régime présidentiel?
Il y avait deux raisons. La première raison, c'est que Senghor, au moment de l'indépendance et même avant, parce que à partir du moment où il est devenu président de la République du Sénégal, c'est-à-dire lors de l'éclatement de la Fédération du Mali, Senghor jusque-là avait des positions, on peut dire, à l'extérieur du système sénégalais. Il a été président de l'Assemblée du Mali, puis il a été ministre dans le gouvernement, les gouvernements de la République française. Et Senghor ne voulait pas occuper un poste en première ligne. Ça s'était passé déjà dès le début de la loi cadre, lorsque la loi cadre
était mise en 1956.
Voilà, Mamadou Dia, chaque fois, disait à Senghor, c'est toi qui es vraiment notre tête de file, notre figure de proue, donc il faut que tu montes en première ligne. Et Senghor rechignait parce que il se sentait finalement déchiré entre ses deux vocations, sa vocation poétique et sa vocation politique. Et il était beaucoup plus à l'aise dans sa vocation poétique que dans sa vocation politique.
Vous voulez dire qu'il n'était pas aussi réaliste que l'on pouvait le souhaiter en politique?
C'est-à-dire en politique, il sentait le poids des réalités et ces réalités pesaient sur lui de manière un peu contradictoire parce que d'un côté, il était tributaire de, disons, ce cheminement qu'il avait fait à travers la langue française, agrégé de grammaire, reconnu dans l'intelligentsia européenne. Et puis, à travers ça, et d'une manière qui s'emboîtait difficilement, il y avait aussi son aspiration à être dans la logique de ses racines. Et Senghor n'a jamais réussi tout au long de sa vie à pratiquer une synthèse harmonieuse dans ses engagements politiques et sociaux. Alors que dans la poétique, l'imaginaire étant roi, il était tout à fait à l'aise. Et donc c'est ce qui expliquait cette espèce de réticence là jusqu'au dernier moment.
Pour pouvoir continuer de partager sa passion poétique, donc, Senghor préfère une posture plus aérienne alors.
Il y avait une deuxième raison à cela. C'est que Mamadou Dia est un homme qui a toujours été immergé dans la réalité économique et sociale du Sénégal. Il était passionné d'économie. Il avait d'ailleurs fondé, on peut dire, les premières coopératives paysannes au Sénégal lorsqu'il était directeur d'école. Et il avait aussi le goût du commandement, de diriger les choses, diriger les affaires. Alors que Senghor, non. Et donc, Dia avait une compétence qui était certainement supérieure à celle de Senghor pour diriger les affaires de l'État et du gouvernement. Senghor s'en rendait compte. Mais en même temps, c'était difficile à gérer tout cela.
Entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, en ce début 1960, pas de réel couac au lendemain de cette indépendance proclamée dans des circonstances exceptionnelles. Pas d'ombre au tableau. Oubliez les incompréhensions nées lors du référendum de 1958. Même si Mamadou Dia se prononce sur certains aspects internationaux, sur la diplomatie du Sénégal, le président de la République Léopold Sédar Senghor est celui qui s'occupe d'établir les grandes lignes de la politique internationale du pays. Le second, le président du Conseil du gouvernement, Mamadou Dia, lui se lance alors dans le premier plan de développement du Sénégal, le tout premier du genre. Roland Collin, vous étiez à son cabinet. C'était la mise en œuvre du projet dont il rêvait.
Là, vous touchez un point qui est absolument capital. Et je crois que si Mamadou Dia reste dans l'histoire, et je crois qu'il va rester dans l'histoire, c'est beaucoup en fonction de cette première politique de développement qu'il a lancée au Sénégal et qui était quelque chose de tout à fait novateur, pionnier. En fait, la politique de développement de Mamadou Dia était une politique qui avait comme fondement la volonté de construire une démocratie enracinée dans les réalités sénégalaises. Donc, tournant le dos à toutes les préconisations des experts des Nations Unies.
À toutes les structures héritées de la colonisation.
Oui, et puis même, disons, également perpétuées par les experts qui arrivaient avec, pardonnez-moi l'expression, un développement préapporté. Alors que Dia pensait profondément que le développement devait être une construction, une création du peuple en relation avec l'État. Il avait d'ailleurs une formule qui nous avait vraiment beaucoup impressionné lorsqu'il nous l'a livrée. Il disait le développement, tout comme le socialisme africain, parce qu'il identifiait les deux choses, ne peut être qu'un contrat entre l'État et la nation. Donc, il fallait préparer la nation à être un partenaire qui puisse peser à part entière face à l'appareil d'État. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné cette capacité aux gens de la base. Développement à partir des communautés de base, disait-il. Donc, priorité absolue, d'abord dans un premier temps, à une éducation généralisée du monde paysan, pour que les délégués du monde paysan puissent être vraiment des acteurs de leur développement et faire le poids vis-à-vis de l'administration. D'où la politique d'animation rurale. C'était une éducation à la participation, à la fois aussi politique et économique et technique. Alors ça a été là une invention tout à fait importante, parce que là, il n'y avait pas de véritable modèle, si vous voulez. Le système s'est mis en place dans le partenariat et le dialogue, et ça avait des conséquences pour transformer l'appareil d'État, pour qu'il puisse lui aussi se mettre en position de dialoguer. Donc c'était une véritable révolution.
Alors, il a dit que sa politique de développement, ce plan de développement, oui, du Sénégal, oui, oui, avait créer une coalition contre lui, coalition, oui, d'un certain nombre, oui, de, oui, personnes contre lui. Qui étaient ces personnes-là, très très concrètement?
Mais écoutez, il s'agit de voir les enjeux. Enfin, un des enjeux essentiels, au-delà de donner la responsabilité au peuple, au comité de base, c'était de mettre à bas l'économie de traite. Cette fameuse économie arachidière qui avait été construite tout au long de la colonisation. Et donc, faire que des coopératives paysannes véritablement autogérées, que ces coopératives paysannes puissent, disons, supplanter l'emprise des grands courants économiques, des grandes puissances économiques qui, par toute une dégradation des responsabilités, allaient jusque ce qu'on appelait le traitant de base qui achetait l'arachide aux paysans et qui remontait pas jusqu'au marché international. Donc voilà la première composante de cette coalition anti-Dia. Et le plan de développement permettait au gouvernement sénégalais d'avoir une couverture complète du secteur arachidé par des coopératives paysannes en 4 ans. Et pas de coopérative paysanne sans animation rurale, et pas d'animation rurale et de coopérative paysanne sans une refonte du système administratif et d'encadrement technique, de façon à ce qu'ils puissent travailler en équipe face aux communautés. Alors, ça c'était la première composante, vous disais-je, de cette coalition. La deuxième composante, c'était des pouvoirs religieux féodaux et rétrogrades. Il y avait des grands marabouts sénégalais que bon, certains sociologues ont appelés, non sans raison, les seigneurs de l'Arachid. Et effectivement, bonne partie dans le monde rural des talibés de ces marabouts travaillaient pour leurs marabouts. Et quand il y avait des coopératives, c'était le parent du marabout qui en avait la responsabilité. En face de ça, Mamadou Dia met en place une structure démocratique, avec des présidents de coopératives élus vraiment par les paysans.
L'autre aspect, justement, de son plan de développement est de faire avancer l'islam de façon éclairée. Ce qui passe un peu par la suppression de certains privilèges dont bénéficiaient les chefs spirituels. Une audace qui va naturellement liguer contre lui les marabouts et presque toutes les confréries.
Si les gens savent ce que c'est qu'être musulman, l'islam, au fond, n'est-ce pas, c'est une religion qui n'accepte pas d'intermédiaire. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'intermédiaire. En islam, il n'y a pas de...
D'église.
Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de curé, disons. Au fond, n'est-ce pas, c'est ça. Bon, il est certain que mon projet, ça, cela heurte les confréries. Ça va à l'encontre des confréries. Et je comprends, n'est-ce pas, que par conséquent, des chefs de confrérie me considèrent comme un adversaire dangereux.
Conscient de la coalition qui enfle contre lui, Mamadou Dia reste pourtant serein. Il sait, ou en tout cas il estime, qu'il n'a rien à craindre tant que le président Léopold Sédar Senghor et lui sont d'accord sur les grandes orientations de sa politique, qu'il partage d'ailleurs avec le parti, l'UPS, l'Union Progressiste Socialiste. La confiance règne dans cette période entre les complices, même s'ils n'ont plus le temps de se voir pour discuter autant qu'ils le faisaient avant l'accession à la souveraineté. C'est donc en toute confiance que Mamadou Dia intervient même dans les grands sujets d'actualité internationale.
Des hommes d'État, de l'Afrique d'expression française précisément, des hommes de pays auxquels la France a donné la souveraineté, ont fait escale aujourd'hui même à Paris. Il s'agit d'abord de Monsieur Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal, qui revenait de Rabat après avoir été à Tunis, l'un des trois mages qui ont rencontré le président Bourguiba et les leaders du FLN.
Il faut dire que la constitution bicéphale ne facilitait pas les choses sur le plan international. Mamadou Dia.
On en a appris, il faudra pas plus d'un an. Bon, pour qu'il trouve que c'est pas tout à fait ça. Il est vrai que bon, j'avais les pouvoirs, c'est moi qui avais les pouvoirs. Mais ça, il l'avait voulu. C'était avec son accord. C'était même sur sa proposition. Bon, j'avais les responsabilités. Et les mesures impopulaires aussi, c'est moi aussi, n'est-ce pas, bon, qui les endossais, qui les assumais. Bon, mais il était tout à fait normal aussi, bon, qu'on parle aussi de moi. Non seulement à l'intérieur du Sénégal, mais au dehors, à l'extérieur également. Bon, quand dans les conférences de chefs d'État et de gouvernement, bon, c'est quand même moi qui avais le dernier mot en tant que président du Conseil, nanti du pouvoir, n'est-ce pas? C'est moi qui avais le dernier mot. Bon, je crois que ça, ce sont des choses qui certainement m'ont dit beaucoup gêné après. Ensuite, sur le plan extérieur, bon, quand les gens invitaient le gouvernement du Sénégal, bon, ils invitaient surtout le président du Conseil. Un peu moins que le chef de l'État, parce que bon, quand il voulait négocier, discuter d'accord, etc., il savait que c'était le président du Conseil qui avait les pouvoirs.
Mi-1961, l'entente cordiale qui régnait entre les deux amis à la tête du Sénégal commence à se fissurer. Ce n'est plus la grande amitié tant vantée. Les désaccords entre les deux hommes commencent à apparaître au grand jour. Si le président Léopold Sédar Senghor ne dit rien sur les réformes entreprises par Mamadou Dia, il ne manifeste pas vraiment de l'enthousiasme. Mamadou Dia.
Je crois qu'il n'était pas d'accord aussi, vraiment, sur les orientations, pourtant, qui étaient définies, n'est-ce pas, par le parti, la radicalisation de notre système économique. Tout ça, je crois qu'il n'était pas acquis. Et il y avait, bien sûr, bon, je crois que ma politique, de plus en plus, commençait aussi à susciter plus que des craintes, n'est-ce pas, du côté des milieux des capitalistes. Il n'a jamais, justement, il ne m'a jamais contraint sur ce plan-là. Il a toujours donné, il a toujours acquiescé. Mais je crois qu'à un moment donné, c'était devenu un acquiescement comme ça, un acquiescement du bout des lèvres.
En tout cas, Léopold Sédar Senghor reste froid aux initiatives de Mamadou Dia, voire opposé au plan de développement, ou du moins à la tournure qu'il prend. Roland Collin.
Senghor ne soutenait pas, je serai nuancé. Senghor, c'était un domaine qui ne lui était pas familier. Donc il faisait confiance à Mamadou Dia. Mais il n'en avait pas la même compréhension profonde. Il connaissait beaucoup moins que Mamadou Dia ce que c'était que la pratique au sein du monde paysan, etc. Enfin, bon, mais il faisait confiance à Dia. Dans tout le temps où Senghor avait des responsabilités en France et à l'extérieur, Dia était, si vous voulez, le maître d'œuvre au Sénégal. Donc, quand Senghor venait au Sénégal, il descendait chez son vieux camarade, son jeune camarade, parce qu'il y avait 5 ans d'écart entre eux, Mamadou Dia. Et là, ils échangeaient beaucoup et Dia se faisait en quelque sorte le pédagogue de Senghor par rapport à l'économie et au développement. Enfin, à partir du moment où Senghor est devenu président de la République, à ce moment-là, il s'est installé dans un protocole et un décorum.
Il se voyait de moins en moins, il n'échangeait plus autant.
Mais alors je vais vous dire, moi je l'ai vécu parce que j'étais à son cabinet, donc je gérais le quotidien de tout cela. Ben, bon, avant il se voyait tous les jours, au jour le jour, etc., de la manière la plus spontanée. Quand Senghor s'est installé dans le palais présidentiel, avec le protocole, et il y a tenu, justement ça c'était aussi le côté héritage disons, du modèle, voilà. Et donc Mamadou Dia ne pouvait plus un soir franchir la porte et dire à son ami Senghor « Mets une assiette de plus, viens partager ton repas », alors qu'avant ça se faisait régulièrement. Il fallait passer par, disons, le décorum et le protocole. Donc il n'avait accès à Senghor que dans une audience régulière, une heure avant chaque conseil des ministres, et en dehors de ça, si vous voulez, il ne se voyait pratiquement pas. Alors comment écluser, faire tenir en une heure ce qui était un abîme de problèmes, et surtout avec la montée de ces coalitions. Et Dia s'en désespérait, il m'en faisait confidence, bien sûr, et Senghor était vraiment complètement, disons, braqué sur cette question-là. Peut-être aussi avait-il peur.
Senghor va dans cette période se faire également de temps en temps, comme l'explique Mamadou Dia, l'écho d'amis qui se plaignent de sa politique, qui est en train de faire fuir les capitaux. Roland Collin, vous qui étiez son directeur de cabinet, sa rigueur, son radicalisme ne risquait-il pas justement d'effaroucher les investisseurs?
D'abord, dans l'état où était l'économie sénégalaise, les capitaux qui venaient s'investir au Sénégal n'étaient pas légion. Donc c'était un risque un petit peu, illusoire. Mais ça lui était dicté par les milieux économiques. Senghor recevait beaucoup de gens dans ses audiences habituelles. Donc, le président de la Chambre de commerce de Dakar, Henri Galinka, qui était très lié avec tout ce monde qu'on appelle les huiliers. Puis on a découvert après qu'il y avait Unilever derrière toutes ces grandes puissances, là, lorsqu'on a fait l'économie, si vous voulez, du néolibéralisme international. Donc, ils instillaient cela dans l'oreille de Senghor. Les marabouts disaient à Senghor, mais le Sénégal est un État 80% et plus musulman. Toi, tu es catholique. Mamadou Dia est en train d'avancer des pions. Eh bien, il irait bien vers une république islamiste. Alors, Senghor n'osait pas ou ne voulait pas ou pas en parler avec Mamadou Dia ou avait des retenues, etc. Bon.
Malgré l'adversité, malgré les oppositions diverses qui affûtent leurs armes, malgré les lobbies qui désormais pressent le président Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia persiste dans son objectif, dans la nécessité à faire disparaître les anciennes structures étatiques, dans son plan de développement. Mais le président de la République, Léopold Sédar Senghor, résistera-t-il encore à la pression des siens qui demandent la tête de Mamadou Dia? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Elle n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Cette politique d'austérité n'était pas prisée, Parce que, évidemment, la tendance, c'était le confort, les facilités. Augmentation, n'est-ce pas, des indemnités parlementaires, etc.
Installé à la présidence du Conseil du gouvernement du Sénégal au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui a quelque peu précipité l'indépendance du jeune État, Mamadou Dia, qui s'est lancé dans un vaste plan de développement de son pays, qui passe bien sûr par la suppression de nombreux privilèges dont jouissaient certains lobbies huiliers et industriels, et même de nombreuses confréries musulmanes, doit faire face en cette année 1962 à une coalition qui supporte de plus en plus mal son programme d'austérité qui touche aussi la classe politique de plein fouet. Une classe politique qui doit de plus en plus renoncer à des facilités dont elle bénéficiait jusque-là. Une frustration qu'elle ne peut continuer de tolérer. Dans le même temps, le soutien de son ami Léopold Sédar Senghor n'est plus aussi franc que par le passé. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mamadou Dia. Tout à son projet de développement, Mamadou Dia, dans cette période de 1961, ne va pas hésiter à s'attaquer à une pratique qui permettait aux hommes politiques et aux membres du parti de s'enrichir, de bénéficier d'une rente grâce à l'aide qu'ils apportaient aux hommes d'affaires, les prises de participation dans les sociétés anonymes.
Ce mouvement, n'est-ce pas, de création de sociétés anonymes, contre lequel je me suis opposé vigoureusement, des députés prenant des parts, on leur accordait, on leur donnait gratuitement des actions, et quand soit des actions par personne interposée, par les femmes, les enfants. Alors quand j'ai appris cela, je les ai fait venir, j'ai dit que c'était pas possible, c'était absolument contraire à la ligne politique de notre parti. J'ai exigé que ces actions-là soient restituées.
Ça s'est passé au niveau du parti, tu as eu gain de cause?
Ah oui, j'ai eu gain de cause. Bon, seulement j'ai eu gain de cause, mais évidemment, ils ne me l'ont pas pardonné.
C'est sûr, ces mesures qui les pénalisent, qui les empêchent de s'enrichir, ils ne vont pas les lui pardonner. En cette seconde moitié de 1962, la tension est à son comble dans le milieu politico-économique sénégalais. La socialisation de l'économie imposée par le président du conseil de gouvernement, qui est en même temps secrétaire général du parti unique, du PS, est sur le point d'aboutir.
Toute l'économie agricole était socialisée dans un sens autogestionnaire, pas dans un sens étatique, mais dans un sens autogestionnaire. Et il y avait alors, et je venais aussi, de prendre un certain nombre d'ailleurs de mesures qui déjà portait atteinte, pas seulement au secteur capitaliste, mais même aux féodalités économiques locales que constituaient certaines confréries religieuses. En 62, c'était la dernière étape, c'était la radicalisation totale. Mm-hmm. Ah oui, en 62.
Roland Collin, vous qui étiez son directeur de cabinet, qui est également l'auteur d'un excellent ouvrage d'entretien avec Mamadou Dia, Sénégal, notre pirogue, c'est le titre. Qu'est-ce qui opposait très concrètement les deux amis? C'était l'option politique de Mamadou Dia ou les groupes de pression dont vous parliez tout à l'heure?
C'était que il y avait dans le personnel politique, j'allais dire politicien, toute une série de notables qui étaient en place, ceux qui s'étaient fait élire conseillers généraux et tout ça, ou vous voyez, depuis la période de transition coloniale, et qui avaient d'ailleurs, pour une part d'entre eux, une bonne part, mais malheureusement, qui avaient des liens avec les traitants de la Rachide, et aussi avec les marabouts. Donc il y avait une sorte de trilogie là qui était en place. Donc les trois se sont coalisés, et les trois sont partis en guerre, parce que la troisième année, en 1962, c'était la troisième année, en octobre 62, la troisième année d'application de ce plan de relais des structures, et si on était passé à 100%, si vous voulez, de couverture, alors à ce moment-là, la révolution était accomplie. Il fallait donc, avant que ce...
Qu'elle arrive au bout,
qu'on abatte, si vous voulez, les acteurs de cette révolution.
La machine de la révolution est effectivement lancée au cours de la seconde moitié de l'année 1962. Elle instrumentalise le chef de l'État, Mamadou Dia.
Il y a eu au niveau de l'Assemblée vraiment un vent de terrible, terrifiant, n'est-ce pas, de népotisme au niveau de l'Assemblée nationale. les députés qui profitent de mon absence pour se faire voter une augmentation de leur indemnité, alors que nous avions bloqué les salaires des fonctionnaires, les salaires des ministres. Bon, et lui, ça, et puis alors, il avait approuvé. Quand je suis rentré, j'ai demandé un conseil exécutif pour faire rapporter ces mesures. Bon, et puis, il y avait des députés qui avaient contracté des dettes importantes auprès des anciennes SMDR, 10 millions, 20 millions, qu'ils ne payaient pas. Bon, j'exigeais le remboursement de ces dettes.
Crime de lèse-majesté qui va exacerber la colère de tous ceux qui travaillaient en coulisses pour le destituer. Les différents acteurs de cette machination vont pousser le président Léopold Sédar Senghor à prendre position. Mais ce n'est pas son tempérament. Mamadou Dia, qui lui est plus direct et qui préfère mettre un terme à ce climat de tension, va aller au-devant de son ami, de son compagnon, son camarade politique, pour lui demander ce qu'il lui reproche. Les griefs qu'il a contre sa politique et son mode de fonctionnement. C'est au cours d'un voyage à Paris que se déroule l'entretien. La réponse du président Senghor est sans ambiguïté. Personnellement, je n'ai rigoureusement rien à te reprocher à toi, Mamadou Dia. J'en veux à un certain nombre de tes ministres. Je ne te demande pas pour tous leur départ du gouvernement. Il y a que je trouve Obey Diop absolument indésirable. Je ne peux plus cohabiter avec lui dans le gouvernement. Les deux autres, Valdiodun Diaye et Joseph Mbaye, je te demande de les changer de ministère. Monsieur Roland Collin, vous qui viviez de l'intérieur cette crise, que reprochait tant le président Senghor à Valdiodun Diaye? On constate que les relations n'étaient pas vraiment des meilleures entre les deux.
Là, si vous voulez, Senghor avait peur et effectivement, disons, je crois que des hommes comme Valdiodun lui faisaient peur.
Pourquoi?
Parce que Valdiodun était un homme qui prenait des positions nationalistes. Il était de la génération plus jeune. En plus, Valdiodun, familialement, venait de la famille des rois du Saloum. Il avait du sang royal, si vous voulez, dans les veines. Et justement, le Sine Saloum, c'est la région d'où Senghor est originaire.
Sauf qu'il n'est pas de...
Mais il n'est pas de sang royal.
De sang royal.
Voilà. Et Valdiodun, disons, ne manquait pas d'occasion d'avoir l'allure et le verbe et la manière de faire qu'on avait dans la classe sociale à laquelle il appartenait.
Et ça, Senghor n'aimait pas.
Alors en plus, Valdiodun aussi était probablement un peu impatient de toute la tergiversation que Senghor avait révélée au moment de l'acceptation de l'indépendance. Valdiodun, qui avait été laissé un petit peu seul en piste face au général de Gaulle, quand de Gaulle était venu au mois d'août 58. Bon, et puis à ce moment-là, effectivement, dans l'air, il avait été décidé qu'on voterait non au référendum. Alors, Senghor n'avait rien dit, mais il n'avait pas contredit. Et après...
C'est après qu'il confie qu'il avait fait une promesse que l'on vote en faveur
voilà,
du oui.
Et que Diane n'a révélé que bien après, et qu'il m'a révélé, d'ailleurs, quand j'ai enregistré son autobiographie, il n'avait parlé à personne avant 1975.
Quoi qu'il en soit, à son retour, Mamadou Dia met en œuvre le souhait de Léopold Sédar Senghor. Il procède à un remaniement ministériel. Mais cela ne suffira pas à ramener la sérénité d'antan. En ce mois de décembre 1962, le climat politique est des plus chauds. Une bonne partie des députés dits de droite, les hommes d'affaires et les lobbies financiers et huiliers n'en peuvent plus de cette politique d'austérité, de ce fameux plan de développement initié depuis 3 ans par le président du Conseil. Un projet de développement qui leur enlève tous leurs privilèges. Avec le temps, avec les contacts haut placés, très insidieusement, ils essaient de convaincre le chef de l'État, Léopold Sédar Senghor, de se débarrasser de cet empêcheur de tourner en rond, qui, selon les arguments avancés au président de la République, risque de faire fuir tous les capitaux. Senghor, qui au départ n'était pas très réceptif à ce discours, commence à y accorder une oreille plus attentive, d'autant plus que les prérogatives particulièrement importantes du président du Conseil de gouvernement ne sont plus tout à fait à son goût. Il a l'impression que ce dernier contrôle tout, qu'il est le réel détenteur du pouvoir. Les plaintes de ses proches deviennent également pressantes. Jusque-là, il ne dit rien à son ami Mamadou Dia, qu'il voit malheureusement de moins en moins en raison de leurs occupations respectives et d'un protocole qui ne facilite pas les choses. Mamadou Dia.
En vérité, il ne s'est jamais montré hostile à ces mesures tant que j'étais là. Il m'a laissé faire. Je crois d'ailleurs que la suite m'a prouvé qu'il n'était pas d'accord
Mais bon, j'étais quand même le secrétaire général du parti, j'étais le chef du gouvernement. Il tenait encore bon à ce que je reste à ce poste-là. Et il savait que pour y rester, bon, je ne pouvais y rester qu'à cette condition, qu'à condition qu'on me laisse les mains libres pour jouer, pour réaliser cette politique, qui était la politique du parti. Donc, je n'ai pas rencontré d'opposition ouverte de sa part.
Si l'opposition n'est pas ouverte, elle existe tout de même. Le président Senghor commence de plus en plus en se rasant à un régime présidentiel qui lui donnerait plus de pouvoir. Devant la pression qui, malgré son silence, est de plus en plus forte, Mamadou Dia, qui a déjà procédé à un mini-remaniement ministériel à sa demande, va revenir le voir au mois de novembre pour lui proposer son départ de la présidence du conseil de gouvernement s'il le désire. Mais Senghor va le rassurer à nouveau. Mamadou Dia.
J'étais prêt à me retirer et même à lui faciliter les choses puisque je me chargeais moi-même de défendre, si c'était la question du régime, de défendre bon, le régime présidentiel devant le parti et devant le pays si c'était nécessaire. Mmh. Alors je m'a dit, il n'était pas question.
Et ça, c'était en 62.
En 62 mmh. En 62, peut-être un mois ou deux mois avant les événements. Mmh. Il m'a dit, pas question. Nous nous complétons. Je ne peux pas, le travail que tu fais, tu ne peux pas le faire. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire. Car je lui avais déjà proposé, au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, il m'avait tenu le même discours. Il m'a dit, je te répète ce que je t'ai déjà dit il y a un an. Il n'est pas question, ce que tu fais, je ne peux pas le faire. Nous ne sommes pas trop à deux. Et puis personnellement, je n'ai rigoureusement rien à te reprocher. À toi, Mamadou Dia. Bon, j'en veux à un certain nombre de tes ministres. Je ne demande pas d'ailleurs tous leur départ du gouvernement. Il dit, bon, il n'y a que Obey, bon, que je trouve absolument indésirable. Ça, je ne peux plus cohabiter avec lui, n'est-ce pas, dans le gouvernement. Les autres, je te demande simplement de les changer de ministère. Ben, change-le, Balioyo, change-le, et puis c'est tout.
Décembre 1962. Mamadou Dia, que rien ne semble perturber dans son train de réforme, prononce une allocution de clôture d'un colloque international intitulé « Les politiques de développement et les diverses voies africaines du socialisme ». Il y réaffirme notamment la nécessité du rejet révolutionnaire des anciennes structures et appelle à concevoir une mutation totale qui substitue à la société coloniale et à l'économie de traite une société libre et une économie de développement. C'est le discours de trop pour certains, puisque quelques députés passent aussitôt à l'attaque en déposant une motion de censure contre son gouvernement à l'Assemblée nationale. Roland Collin, vous qui étiez du système et qui, en tant que directeur de cabinet, était au courant de toute cette machination, qui sont ces députés qui lancent cette estocade contre Mamadou Dia ?
Les députés qui étaient en première ligne sont, pour une bonne part, ceux qui avaient, des liens très étroits avec les traitants arachidiers. Un homme comme le député Théophile James, par exemple. C'est un homme d'affaires qui était très lié à ce monde-là. Alors, effectivement, ils ont ourdi, on peut dire, un véritable complot. Et ce complot a d'ailleurs été révélé après coup, parce que Magatlo, qui était aussi l'un d'entre eux...
Absolument.
Magatlo est allé voir Senghor avant que les événements se déclenchent, et a dit à Senghor... Il faut que Mamadou Dia parte, parce qu'autrement, notre système est menacé. Et alors, Senghor était embarrassé, mais il ne disait pas non, parce que lui-même commençait
à
s'enfoncer dans cette crainte de tout ce qu'il y avait à la clé.
La motion de censure que proposent les députés contre le gouvernement de Mamadou Dia ne semble pas trop l'inquiéter. Il ne se fait pas trop de soucis, parce qu'il sait qu'au sein du parti, il est soutenu, qu'il n'a rien à craindre. Pour lui, c'est au sein de l'UPS, parti unique, dont il est le secrétaire général, que se prennent les grandes orientations. Donc, le vote de cette motion à l'Assemblée nationale n'aura peut-être pas lieu après la réunion au sein du mouvement. Seulement, les députés ont anticipé sur cet organigramme en décidant d'une date pour le vote de la motion au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont choisi celle du 17 décembre 1962, c'est-à-dire quelques jours seulement avant la date de la réunion du parti. Mamadou Dia, qui pense que le parti est le lieu où doit se discuter cette motion, estime donc qu'elle est irrecevable. Pour lui, puisqu'elle est conçue et initiée à l'extérieur du mouvement, en dehors des structures légales du parti, et formulée en plus dans un contexte d'état d'urgence, qui, il faut le préciser, dure toujours depuis l'éclatement de la Fédération du Mali, elle ne peut être acceptée. Les auteurs de cette motion reprochent d'ailleurs, entre autres, à Mamadou Dia de faire durer l'état d'urgence pour faire passer toutes les lois par décret. Ils demandent alors que le Conseil national du parti examine la motion. Différence de conception sur le rôle du parti qui va être à l'origine de la crise qui commence ce fameux 17 décembre 1962. Les parlementaires se présentent alors à l'Assemblée nationale à 10h du matin, avec la ferme détermination d'en finir avec Mamadou Dia. Mais là, les 54 députés sont chassés par la garde républicaine mobilisée par le président du Conseil. C'est la cohue devant le Parlement. Et c'est également la première maladresse de Mamadou Dia, puisqu'aussitôt, les parlementaires parlent de putsch. Roland Collin, vous qui lui aviez promis dans cette tempête de rester avec lui, de ne pas vous rallier à tous ceux qui voulaient sa tête, avec le recul, ne pensez-vous pas que cette décision de bloquer l'entrée du Parlement par la garde républicaine était une grave maladresse?
C'était bien plus grave qu'une maladresse.
C'était un putsch.
Non, c'était pas du tout un putsch. Parce qu'un putsch, c'est quand vous prenez le pouvoir. Or, il l'avait, le pouvoir. Pas. Quand vous voulez conquérir le pouvoir. Or, Mamadou Dia n'avait mobilisé aucune force militaire ou milicienne, pas, ce qu'on fait dans tous les coups d'État. Il y allait uniquement sur le problème des principes. Et alors, la détermination de Mamadou Dia, c'était la suivante, de dire, tous les députés, le président de la République et moi, chef de gouvernement, nous avons été désignés par le parti. C'est le parti qui nous a investis.
Donc, et pour lui, le parti primait sur l'État.
Mais bien entendu, en morale politique. Et il disait, si convoquons le Conseil national du parti et chargeons le Conseil du parti de prendre position, et moi, j'aurais même pas besoin de passer par une motion de censure, si le Conseil national du parti ne me confirme pas ma mission, je démissionne en militant discipliné. Et il y avait un danger très grave pour les ennemis de Mamadou Dia, que le Conseil national du parti, effectivement, donne raison à Mamadou Dia contre eux. Donc, il fallait accélérer au maximum.
La réunion du parti.
Avant la réunion du parti. Et alors, ça a été, si vous voulez, là, le ressort qui a fait exploser le système. Alors, Dia s'est trouvé piégé, finalement. Parce que, s'il laissait la motion de censure se voter avant que le Conseil national du parti se réunisse.
Il était démis.
Il était démis et il savait à la clé qu'on allait transformer les institutions, qu'on allait non seulement l'éliminer, mais qu'on allait créer un régime présidentiel qui serait à l'opposé de toute cette ligne démocratique dans laquelle il était.
Ce 17 décembre 1962, là, à Dakar, il y a comme de l'électricité dans l'air. Comment le président du Conseil va-t-il se sortir de ce mauvais pas? Quelle est la stratégie pour éviter la crise politique qui pourrait l'emporter? Ce mois de décembre va être très chaud dans la capitale sénégalaise. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette édition et les précédentes sur le site du RFI, à la rubrique podcast. Vous pouvez également les retrouver sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement en téléchargeant gratuitement sur votre portable l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous avez également le moyen de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.